Voilà, nous avons commencé dimanche dernier dans Romains chapitre 12, donc nous allons continuer encore aujourd'hui dans Romains chapitre 12. Nous avions vu les deux premiers versets dans lesquels l'apôtre Paul nous exhortait à nous offrir nos corps en sacrifice vivant. Et donc Romains chapitre 12... Et nous allons lire à partir du verset 3. Jusqu'au verset 8. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je crois que ce n'est pas nécessaire, mais je vais juste rappeler que ce passage suit les versets 1 et 2. Hein, donc, avant d'arriver à ce que ce passage enseigne, il faudra déjà avoir offert son corps en sacrifice vivant. Hein, celui qui est encore en train de vivre pour lui-même, dans la chair, tout cela, eh bien, ces versets n'ont pas grand sens. Ou pour celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie, eh bien... Il ne voit pas tout cela. Hein, mais ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que le mot « grâce » est venu plus d'une fois, le mot « grâce », et la notion de condamnation et la notion de grâce sont très liées, parce que sans une condamnation, la grâce n'a pas raison d'être. On trouve toujours très désagréable d'être condamné. Mais si on n'est pas condamné, on ne peut pas être gracié, on ne peut pas bénéficier d'une grâce. Donc il faut qu'il y ait une condamnation, il y a un jugement pour pouvoir bénéficier de la grâce. La grâce n'est pas pour les gens qui sont très bien, qui n'ont jamais rien fait de mal. La plupart d'entre nous, et je suis sûr même tous d'entre nous, n'avons jamais bénéficié de la grâce présidentielle. Mais il arrive que certaines personnes en ont besoin et ils font appel. Donc, mais ce que je dis est dans la parole, si la condamnation s'étend à tous les hommes, le Dieu juste et miséricordieux doit étendre sa grâce aussi à tous les hommes. Si Dieu condamne et dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, eh bien... si on est tous condamnés, eh bien, Dieu qui est juste, qui est amour, qui est miséricordieux, ben aussi va étendre sa grâce et l'offrir, la proposer à tous. Parce que si c'était condamné pour condamner, ben, bon, laisse-moi dans mon état. Mais si c'est condamné pour pouvoir intervenir, là je comprends la démarche. Et c'est là que ce qu'il faut comprendre chez Dieu, c'est que s'il a fait la démarche de nous dire que nous sommes pécheurs et que nous sommes finalement dans l'état où nous ne sommes pas en mesure d'aller au ciel, même si on le veut, eh bien là, mais il nous apporte une réponse. Hein, c'est comme si on vous dit, vous êtes condamné, hein, vous avez le cancer et vous avez 3 mois. Et docteur, vous n'avez rien d'autre à dire ? Ben non, j'ai rien. Ben pourquoi vous me l'avez dit ? Laissez-moi vivre heureux. Mais s'il me dit, mais vous avez ça, mais j'ai quelque chose à vous proposer, il y a quelque chose, et on va pouvoir vous aider. Alors ça, c'est autre chose. Là, on est moins gêné par le fait que le médecin nous ait déclaré malade. Et donc, là aussi, Dieu, dans sa grâce, nous a condamnés, nous a dit que nous sommes tous pécheurs et indignes du ciel, parce que, à partir du moment où, vous savez, la moindre imperfection rend une chose parfaite imparfaite. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de taches sur un vêtement pour qu'il soit considéré comme sale. Hein. Et si Dieu choisissait certains pour la perdition et d'autres pour le salut, et il décidait cela à l'avance, avant que les personnes soient nées, eh bien, certains, et je le dis, c'est parce que certains l'enseignent de cette manière-là, moi je dis que ce n'est pas un Dieu qui... c'est pas un Dieu juste, ce n'est pas une élection, c'est plutôt une sélection par un Dieu partial. Et la Bible ne nous présente pas un Dieu de sélection et partial, qui choisit certains arbitrairement et d'autres non. Hein. Moi, je vois dans la Bible un Dieu qui est juste et que ce qu'il propose, il le propose à tous. Et il n'y a pas de nation, de peuple privilégié. L'évangile de Jésus-Christ est pour tous et chacun, et quel que soit le rang dans lequel on l'a mis dans la société même. Et Dieu tellement, il désirait nous offrir le salut, il a insisté que son fils, dans le jardin de Gethsémané, boive la coupe jusqu'à la lie. Jésus, vous souvenez, Jésus dans le jardin, il a dit, Père, s'il y a moyen de m'empêcher que je ne boive pas cette coupe, et il pensait à la croix et la mort de la croix et l'enfer, la tombe, eh bien, il dit, Dieu, s'il y a moyen de contourner cela, j'aimerais bien. Dieu dit, non, il n'y a pas moyen. Pour que je puisse offrir le pardon à tous, il faut que tu meures. Et c'était un prix que Dieu a payé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et puisqu'il l'a déjà fait, c'est pas la peine de porter des jugements ou une opinion sur ce qu'il a fait. C'est fait et ça apporte la vie éternelle. Dieu a voulu le faire et donc nous devons l'accepter. Alors Dieu peut ainsi proposer un salut pour tous, mais chaque homme doit le demander. Hein. Dieu respecte le fait que nous sommes des hommes libres, que nous avons cette possibilité de faire des choix. Et donc Dieu dit, écoute, moi je te propose, j'offre, et même j'offre gratuitement, maintenant c'est à toi de le recevoir. Hein. Et il le propose et sincèrement. Hein. Ce n'est pas seulement une proposition... mais qui est impossible, mais il l'offre sincèrement, et nous pouvons, et chacun de nous pouvons le recevoir, et si jusque-là, hein, vous êtes encore une personne qui n'a pas demandé à Dieu de vous pardonner vos péchés et de vous donner cette vie nouvelle grâce à Jésus-Christ sur la croix, vous pouvez le faire, et tant que vous avez du souffle, vous pouvez le faire, et il se fera un plaisir. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous savez combien ça coûte un don ? Ça coûte, celui qui reçoit, ça ne coûte rien. Celui qui l'offre, ça lui coûte tout. Hein. Vous avez déjà essayé de acheter des cadeaux de mariage. Hein, vous donnez ça aux mariés, pour eux c'est gratuit. Bon, vous avez peut-être acheté pour eux quelque chose que vous n'auriez pas acheté pour vous-même. Il y a un prix. Et vous offrez, pour eux c'est gratuit, pour celui qui reçoit c'est gratuit, pour celui qui donne, il a payé. Et c'est pareil pour le pardon des péchés, le salut de Dieu. c'est offert, c'est gratuit pour nous, mais c'est lui qui en a eu les frais. Et il dit que c'est par grâce que vous avez été sauvés. Il ne dit pas que c'est par grâce que vous avez été élus, il dit que c'est par grâce que vous avez été sauvés. Et cela par le moyen de la foi. Grâce au moyen de la foi en la parole de Dieu révélée. Cette parole, hein, cette Bible-là, c'est la foi, c'est le fait de faire confiance à ce qui est promis. Dieu le promet dans sa parole, je le crois, je le demande et je le reçois. Et on accède à cette grâce par le moyen de la foi et donc c'est à la portée de chacun. C'est pas avec l'intelligence, c'est pas avec l'éducation, c'est pas avec nos moyens financiers, ce n'est pas avec notre santé que nous avons pu faire beaucoup de choses pour Dieu, parce que là ce serait injuste, parce que certains n'ont pas cette santé, certains n'ont pas ces moyens économiques, certains n'ont pas autre chose, et on ne serait pas tous égaux. Mais quand Dieu nous le propose, il dit que c'est par la foi, tu crois, et bien ça, même un enfant peut croire, et quelqu'un qui a été élevé dans une autre religion, quelqu'un qui a été élevé sans religion, peu importe, la foi est là à notre disposition, parce qu'il s'agit de faire confiance à ce qui a été promis. L'apôtre Paul est parfaitement conscient qu'il a été bénéficiaire des grâces de Dieu. Vous voulez regarder avec moi dans 1 Timothée chapitre 1, l'attitude de l'apôtre Paul, ce qu'il dit par rapport à lui-même. 1 Timothée chapitre 1, et je vais lire les versets 12 à 17. L'apôtre Paul avait été très religieux, il appliquait la loi de Moïse à la lettre, et il avait même une certaine jalousie pour Dieu, et donc tous ceux qui ne se conformaient pas à Dieu, il s'y opposait, il a mis des gens en prison, il a battu d'autres. Alors ici, voilà, verset 12, hein, donc 1 Timothée, chapitre 1, verset 12, dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui, auparavant, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il a dit, moi, je n'étais pas digne. Il dit encore, en fait, vous savez, dans notre esprit, le pire des péchés, c'est peut-être de commettre le crime, d'abuser d'un enfant, ou des choses comme ça, c'est les choses les plus horribles qu'on puisse imaginer. Mais l'apôtre Paul, il dit, j'ai persécuté l'Église de Christ, les enfants de Dieu. C'est ça. Pour lui, c'était la plus grande des choses. Et il se considérait comme le plus grand des pécheurs. Lui qui, à cause de ça, il était devenu fanatique, il est devenu intégriste, il est devenu violent. Vous savez, l'intégrisme dans la chair, ça rend violent. Il était un terroriste de son époque. Mais il a, un jour, il a compris que Jésus-Christ, c'était le Seigneur et le Sauveur. Et il a reçu. Et il a répondu, il avait une prière très courte. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il a reçu. Et il a dit, j'ai été bénéficiaire de la grâce de Dieu. Normalement, j'aurais dû être jugé pour ce que j'ai fait. Mais Dieu m'a pardonné. Et il dira aux Corinthiens, et si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, et je veux lire ces quelques versets, 1 Corinthiens 15, et les versets 8 à 10, il parle de la résurrection, il parle de ceux qui ont été témoins de la résurrection de Christ. Et au verset 7, il dit « Ensuite, parlant de Christ, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Et donc il comprend, l'apôtre Paul comprend, il dit « Oui, moi j'étais digne de rien du tout, d'aucune grâce de Dieu. Il m'a fait grâce, il m'a même donné la possibilité de le servir à un degré même au-delà des apôtres. » Alors qu'il dit que moi j'étais pas digne d'être apôtre, il m'a donné cette possibilité de porter l'évangile dans combien de pays. Et il dit « La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. » Il dit « J'ai répondu. » La grâce de Dieu qui a agi en moi m'a transformé. Quand j'ai compris ce que j'étais et ce que Dieu m'avait pardonné, eh bien, ça m'a donné une motivation nouvelle pour vivre pour lui. Et c'est un peu ce qu'il reprend ici dans ce passage de Romains chapitre 12. Parce que lorsque nous saisissons cette vérité, que nous sommes tributaires de la grâce de Dieu, c'est pas « je n'ai rien à offrir à Dieu ». Si j'ai quoi que ce soit, il y a quoi que ce soit de bon en moi, c'est parce que je l'ai reçu de lui. Il dit « Je suis tributaire de la grâce de Dieu ». Donc la première réaction, et c'est ce que nous voyons dans ce verset 3 de Romains 12, dit « Ma première réaction, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même ». La première chose, il dit « Quand tu comprends ce que Dieu a fait et que tu n'étais digne de rien du tout, eh bien tu te fais sans petit ». Et l'apôtre Paul s'est toujours souvenu de ce qu'il était, et ça lui a permis de rester humble pendant toute sa vie. Et vous savez, la tendance, et ça peut arriver chez les chrétiens, c'est que tout d'un coup, une fois que la vie est changée, d'améliorer, et puis tout ça, on commence à se sentir meilleur que les autres. Il dit non, 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 souviens-toi que ce que tu as, tu l'as reçu par grâce. La première réaction donc de celui qui comprend que ce qu'il est, c'est une grâce de Dieu, eh bien, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de lui, mais de se revêtir de sentiments modestes. Se revêtir de sentiments modestes. Il dit, ce que j'ai, eh bien, c'était un cadeau de Dieu. Et lui a payé cher pour ce cadeau. Vous savez, c'est quand quelqu'un... Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais que quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui n'a pas grand-chose et qui vous fait un cadeau qui est... Vous savez ce que ça a pu vous coûter, vous savez pas où vous mettre, comment le prendre. Vous voulez le recevoir, mais en même temps, vous vous sentez vraiment petit parce que vous voyez ce qu'il a sacrifié. Hein, c'est... Si vous avez un enfant de 4-5 ans et qui dit « je veux te faire un cadeau » et qui vous vide sa tirelire... C'est peut-être qu'une quinzaine d'euros, mais pour lui, c'est toute sa tirelire, c'est tout son argent. Et vous n'avez pas envie de le prendre, vous avez presque le sentiment que de le prendre, ce serait un crime. Mais il dit, non, non, je veux que tu l'aies, je veux te le donner. Vous acceptez ça, mais vous manquez les mots. Et c'est un peu ça, lorsque Dieu nous offre et on dit, mais on n'est pas digne de cela. Je me sens petit devant lui. Et cette humilité devant Dieu, eh bien, c'est ce que Dieu veut. Donc après avoir, comme nous l'avons vu la semaine dernière, après avoir offert son corps en sacrifice à Dieu pour le servir, maintenant après il y a des sentiments que l'on doit avoir, c'est des sentiments d'humilité. Parce que tout ce que nous avons, ce n'est pas grâce. Et si nous sommes... sauvés par grâce, et nous aimons le dire, si nous sommes sauvés par grâce, eh bien nous devons dorénavant vivre selon la grâce qui nous a été donnée. Et cette confiance, nous l'avons en la grâce de Dieu. Que nous avons en la grâce de Dieu, c'est la foi qui permet à l'enfant de Dieu d'aller de l'avant dans le service de Dieu. Lorsque je sais qu'il m'a fait grâce, je le crois. Je crois que ce cadeau est vraiment, il me l'a vraiment donné, c'est vraiment pour moi, j'ai vraiment la vie éternelle, j'ai vraiment une vie nouvelle, j'ai vraiment une autre raison pour vivre, et bien maintenant, je peux partir avec confiance et le servir et vivre pour lui. Paul parle de la grâce qui a été donnée et il exhorte ses chrétiens de Rome et par extension nous-mêmes, hein, c'est ce qu'il dit aux Romains, c'est pour nous aussi. Il nous dit, et vous voyez à la fin de ce verset 3, il dit de vivre selon la foi que Dieu a départie à chacun. Nous recevons de Dieu, nous avons reçu le pardon, le même pardon de nos péchés, nous avons reçu un pardon total, là il n'y a pas de distinction. Mais ensuite, Dieu donne à chacun des dons spirituels, il y a des choses, et là Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. On ne peut pas se comparer en tant que chrétien, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des chrétiens qui vivent dans la souffrance, il y a des chrétiens qui vivent avec le strict minimum, ils sont contents, il y en a d'autres qui ont l'abondance, il y en a d'autres qui ont la force, il y en a d'autres qui sont constamment en train de se battre avec des faiblesses. Et là, mais il dit à chacun de vivre avec selon la foi qui lui est départie. Dieu nous donne à chacun. Pour ce qui est de la vie éternelle, nous avons tous reçu la même chose. Mais ensuite, dans le corps de Christ, eh bien, nous ne sommes pas tous traités pareil. Vous savez, c'est personnalisé. J'ai eu des enfants, j'en ai toujours, hein, mais bon, ils ne sont plus là. À la maison, mais il y avait une période à Noël, vous savez ce que c'est qu'à Noël, quand on a des enfants, il faut acheter des cadeaux. Alors, il y en a qui disent, non, il faut donner même valeur égale pour tous les trois, parce qu'on en avait trois. Mais c'est pas le cadeau, c'est pas combien ça a valé, c'est si ça correspond à la personne. Hein, si on a distribué et donné des poupées aux filles, on ne va pas donner une poupée aux garçons pour qu'ils ne soient pas jaloux. Ils ne seraient pas jaloux. Mais à chacun, on lui donnait ce qui correspondait en fonction de son âge, en fonction de ses intérêts, en fonction de ce qu'il avait. C'est-à-dire, dans un sens, on n'a pas traité tous nos enfants pareillement. Mais on a traité chacun, on a essayé, avec les moyens qu'on avait, de donner à chacun ce qui lui correspondait. Hein? Vous savez, c'est commencé. Moi, j'ai été l'aîné, donc je peux parler. Et vous savez, l'aîné, il doit attendre jusqu'à 14 ans pour avoir un vélo. Et puis après, le petit frère, lui, il en a un à 8 ans. Et c'est une injustice que les aînés vivent. Bon, après, les petits, ils trouvent qu'il y a des injustices aussi par rapport à eux. Mais vous savez... Mais c'est pas une question. Moi, je l'ai eu à 14, et lui, il a 8 ans. Pourquoi ? C'est pas juste. Non, c'est pas comme ça. Ben, si les parents jugeaient que moi, je devais l'avoir à 14 ans et que l'autre, il devait l'avoir à 8 ans, ben, c'est tout. Ça correspond et je suis content pour lui. Il est content, donc je suis content. Et quand moi, je l'ai reçu à 14 ans, j'étais content. Donc, tout va bien. Et il y a une éducation, il y a une manière de penser qu'il faut avoir. Et le monde est là en train de nous provoquer à la jalousie et nous essayer de nous faire voir l'injustice là où il n'y en a pas. Nous ne sommes pas tous pareils, nous ne sommes pas tous nés dans le même pays, nous ne sommes pas tous nés avec une cuillère d'or dans la bouche, mais nous sommes bénéficiaires des grâces de Dieu. Et nous devons nous remercier Dieu, puisque c'est une grâce. Hein, ce n'est pas un dû. Quand c'est un dû, on peut réclamer. Mais quand c'est une grâce, on ne peut pas réclamer. Ça me fait penser à la parabole du Seigneur où il y avait le propriétaire du terrain, il est sorti chercher des ouvriers de bon matin, il en a trouvé quelques-uns, il a convenu avec eux de payer le salaire journalier, puis ils ont été au travail, et puis il est retourné quelques heures plus tard, et puis il a été sur la place, il a trouvé des gens assis là, il dit « Pourquoi, qu'est-ce que vous faites là ?»« Ben, on cherche du travail. » Ben, au lieu de leur faire la morale, leur dire « Mais ben, vous êtes réveillés à quelle heure ?» Il leur a dit « Vous voulez travailler ? Allez, venez travailler, je vous paye la journée. » Et puis hop, et y en a qui, c'est l'après-midi même qu'il est venu les recruter, et je ne sais pas pourquoi ils étaient là seulement l'après-midi, pas plus tôt, mais il dit « Je vous paye le salaire de la journée. » À la fin de la journée, quand il a tous ses journaliers, quand il les a payés, les premiers sont, les derniers, il leur a donné un denier, le salaire d'une journée de travail, même s'ils avaient travaillé qu'une seule heure. Les prochains, il leur a donné la même chose, et eux, ils n'ont travaillé que 4-5 heures. Et puis après, il y a ceux qui ont travaillé toute la journée, 8 heures, et il leur a donné la même chose. Et ils ont dit, mais eux, ils n'ont travaillé qu'une heure, on a donné ça, et nous, on a travaillé 8 heures. Il dit, écoutez, on a convenu, n'est-ce pas? On a convenu pour un temps. Ne soyez pas jaloux d'eux. Moi, j'étais juste avec vous, je vous donne ce que je vous ai promis. Eux, ben, je fais une grâce, je leur donne le salaire d'une journée. Vous savez, c'est pas la réflexion d'un syndicat. Hein. Les syndicats d'aujourd'hui, ils pensent pas comme ça. Mais Dieu dit, moi, je donne le maximum à n'importe qui. Et quand vous recevez le salut, vous dites, voilà, toi, tu as reçu le Seigneur à 10 ans, c'est bien. Toi, je te donne une bonne dose. Mais l'autre, il s'est amusé toute sa vie, il a fait des bêtises et tout cela, et puis il arrive à la dernière minute, il dit, Seigneur, sauve-moi. Eh bien, le brigand sur la croix, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas dit, tu vas aller faire un petit séjour à souffrir quelque part, et puis ensuite, tu viendras. Parce que c'est la dernière minute, et puis là, tu n'es même pas baptisé, tu n'es pas dans une église, tu n'as rien du tout, ben, il faudra que tu ailles purger quelque part. Non. Jésus a dit, et il lui a offert le même salut que nous tous. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dès que tu quittes ici, tu seras avec moi. Vous savez, c'est ça. Et nous devons, si nous voulons, nous devons penser comme Jésus pense. C'est penser et nous rendre compte que tout cela, c'est des grâces que Dieu nous offre. On ne peut pas prendre les règles de la vie sur terre et les appliquer à Dieu. Ça ne marche pas. Déjà, ça ne marche pas ici sur terre. Alors pourquoi est-ce qu'on veut les appliquer au ciel ? Nous devons penser comme Dieu pense. Et Dieu est un Dieu généreux qui donne tout ce qu'il a à donner à tous, peu importe quand ils arrivent et dans quel état ils arrivent. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est ça la grâce. Et lorsque je me rends compte, et alors Dieu nous donne des dons spirituels différents. Il nous parle ici justement, il prend cette image du corps, il l'a fait ailleurs, il l'a fait avec les Éphésiens, il l'a fait avec les Corinthiens. Il prend cette image du corps, il dit nous sommes, l'ensemble des enfants de Dieu, l'ensemble des croyants sont comme les membres d'un corps. Ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas la même fonction, vous ne pouvez pas substituer l'oreille pour un pied, ça ne marche pas. Et chacun a sa place, chacun a sa fonction, et c'est très bien. Et puis, il nous dit, maintenant, chacun a sa fonction, et c'est une grâce qui lui a été donnée, c'est Dieu qui la donne, nous ne pouvons pas nous comparer les uns aux autres. Si votre pied dit, oh, moi, j'en ai assez d'être un pied, on marche dessus tout le temps, je veux être une main. Et non, tu as été créé pied, tu remplis ta fonction de pied, et tout le corps en a besoin, et compte dessus. Et donc, lorsque un pied ne veut pas fonctionner, ne fonctionne pas, on appelle la personne handicapée, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais ne prenons pas cette position qu'on peut avoir dans le corps comme une réflexion sur notre spiritualité. Certains, parce qu'ils ont un rôle qui est plus voyant, se croient peut-être meilleurs, ils peuvent avoir ce sentiment d'être meilleurs que les autres. Non. chacun remplit sa place là où il est. Vous savez, il nous dit dans 1 Corinthiens, il nous dit « Ne te vante pas du don que tu as reçu, parce que tu l'as reçu. C'est pas toi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Alors pourquoi est-ce que tu vas te vanter ?» Vous savez, dans le monde, on a ça. Hein. Il y en a un qui a un corps. Et bien tout de suite, il commence à marcher comme si. Et puis il veut être admiré. Et puis ceux qui ne respectent pas sa force, et bien il va leur faire goûter un peu de sa force. Et il va s'imposer. Et mais ça, c'est dans le monde. Mais pas chez Dieu. Pas dans l'Église de Jésus-Christ. Si tu as de la force, c'est pour pouvoir mieux porter les autres. Chaque don spirituel que nous pourrions avoir est une grâce de Dieu qui nous a été accordée. Et nous l'avons en proportion de la foi que nous avons, que nous a été donnée. L'un peut avoir un don spirituel, un même don spirituel qu'un autre, mais pas forcément dans les mêmes proportions. Vous savez, dans le corps, on a deux mains. On a deux mains, là, mais dans un sens, on ne peut pas les échanger. Bon, d'abord, ça ne marche pas, parce que vous n'avez pas une main droite à gauche, avec le pouce vers l'intérieur. Comment vous allez attraper les choses ? Et deuxièmement, vous avez une main droite et vous avez une main gauche. Et en général, elles n'ont pas les mêmes forces. Elles se ressemblent, mais il y en a une qui est droite et il y en a une qui est gauche. Il y a des choses que vous faites toujours avec la main droite, il y a des choses que vous pouvez faire avec la main gauche. Il y a des choses que, à moins que la droite et la gauche travaillent ensemble, vous ne pourrez pas le faire. Mais la main gauche, eh bien, ne doit pas se plaindre de ce qu'elle ne soit pas une main droite. Et la main droite, eh bien, doit remplir la fonction d'une main droite. Elle dit, mais moi je travaille plus que la main gauche, c'est pas juste. Elle dit, ah oui, mais tu as reçu des capacités que la gauche n'a pas. Donc c'est normal que tu aies une charge supplémentaire. Et dans le corps, et donc dans une église, dans l'église du corps de Christ, dans une église locale, ben, nous ne sommes pas tous exactement pareils, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, les mêmes dons, mais si tout le monde remplit sa fonction, eh bien, le corps se portera bien. Et nous voulons demander au Seigneur hein, de nous apporter tous ceux des autres membres, parce que pour compléter le corps, pour pouvoir apporter, hein, c'est important que le corps et l'Église locale, eh bien, c'est une représentation en miniature du corps de Christ. Hein, donc, on veut pouvoir voir dans l'Église locale ce qui est vrai de l'Église universelle. L'Église universelle, c'est pas une Église particulière, hein, il y a beaucoup de noms, hein, vous savez, toutes sortes d'Églises qui ont des noms, mais dans l'esprit de la Bible, tous ces noms n'existaient pas. Il n'y avait qu'une seule Église, et l'Église est composée de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et qui ont reçu la vie éternelle. Il nous dit dans Actes chapitre 2, verset 47, il nous dit « Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » À l'Église. Et c'est lui qui les ajoute et cela compose l'Église de Jésus. Il ne faut pas avoir cette idée que c'est l'Église, c'est le clergé. Ça, c'est un truc qui circule. Et si vous êtes, vous avez grandi dans le catholicisme, comprenez que quand il parle de l'Église, il ne parle pas de vous, il parle du clergé, hein, avec tout ce que cela comporte. Mais dans la Bible, il n'y a pas une question de clergé, il y a une question de pécheurs sauvés par grâce, et nous faisons tous partie. Hein. Nous sommes tous membres de ce corps, nous avons tous une part. Il n'y a pas ceux qui subissent et ceux qui... et nous devons continuer à vivre pour le Seigneur. Et nous ne devons pas voir le salut comme une chose due, ni les dons spirituels comme des choses dues, mais et nous voulons pas, pour ceux qui croient que le salut c'est quelque chose qui leur a été imposé, parce qu'ils ont été choisis à l'avance, et donc ils ne pouvaient pas refuser, donc ils sont obligés de le recevoir, vous n'allez pas vivre la chose de la même manière. Celui qui a l'impression qu'il a été sauvé, bah, il ne pouvait pas faire autrement, il ne va pas réagir. Mais celui qui comprend que c'est Dieu qui lui a proposé le pardon, et quand je me rends compte que c'est moi qui ai choisi de recevoir ce pardon, eh bien je dis, mais maintenant j'ai un devoir envers lui, je veux vivre pour lui. Et c'est une autre, la réaction spontanée est autrement. Et donc c'est important pour nous, et l'apôtre Paul est en train de souligner, il dit d'abord la première chose, on l'a vu la semaine dernière, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, et maintenant, revêtez des sentiments d'humilité, et vous avez une place dans l'église de Jésus-Christ, eh bien, réjouissez-vous non pas de la place que vous avez, mais du fait qu'il y ait même une place pour vous, parce que c'est une grâce. Et réjouissez-vous et remplissez cette fonction. Et le Seigneur nous bénit. Regardez un peu la suite du passage ici. Je relis à partir du verset 4, il dit « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Vous savez, la main, ça ne ressemble pas au pied, mais quand il faut aller cueillir une figue, eh bien, la main a besoin du pied, parce que c'est les pieds qui vont l'emmener jusqu'au figuier pour que la main puisse accueillir. Et nous avons besoin de travailler ensemble. Et les membres travaillent, ce n'est pas chacun de son côté, mais nous travaillons ensemble et nous voulons vraiment remplir cette fonction. Et vous avez remarqué, donc il souligne la différence, la variété, mais il y a une chose qu'il ne faut pas mélanger. Et vous avez regardé, vous voyez dans les versets, je vais vous lire à partir du verset 6, il dit « Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère en proportion de la foi, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement en proportion de la foi, que celui qui exhorte à l'exhortation en proportion de la foi, que celui qui donne le fasse avec libéralité en fonction de la foi, que celui qui préside le fasse avec zèle en proportion de la foi, celui qui pratique la miséricorde. » Remarquez qu'il ne passe pas par le plus important jusqu'au moins important. Pour eux, ils sont pareils. Peut-être chez les hommes, on dit « Ah oui, celui-là, c'est le prédicateur, il prophétise. Ah, ça, c'est autre. Ah, ça, c'est un beau don. » Non, non, remarquez qu'il dit « Celui qui pratique la miséricorde, ou celui qui préside, ou celui qui donne de ce qu'il a, celui qui exhorte, tous sont égaux. » Chacun, il dit « Ce que Dieu t'a donné à faire, fais le bien. » Ce n'est pas une question que l'un est supérieur à l'autre. Pour l'exemple, notre sœur Sophie, là, je connais bien depuis longtemps. Depuis que je la connais, elle sert l'Église. Elle sert l'œuvre du Saint. Elle ne fait que servir. Elle fait des tartes, elle fait la cuisine, elle fait ceci, cela. Mais vous savez, dans l'esprit de Dieu, elle est serviteur de Dieu autant qu'un pasteur. Parce que sert avec la capacité que Dieu lui a donnée, elle est toujours disponible. Son mari me le disait, il me dit, elle est tout le temps, elle est tout le temps. Pourtant, elle a l'âge de la retraite, elle pourrait s'arrêter, elle ne s'arrête pas. Elle continue toujours. Vous savez, il nous faut penser comme Dieu pense. Et lorsque je remplis ma fonction et je sers le Seigneur, pour lui c'est pareil. Il n'y a pas le pasteur, c'est « Ah, ça c'est un beau don ». Et puis après, il y a... Non, non. Tous, chacun remplit sa fonction. Dieu, il ne regarde pas le titre, il regarde la fidélité dans le service. C'est autre chose. Vous savez, ce sera le jour où les syndicats vous diront on devrait être payé en fonction de notre fidélité dans le travail. Peu importe de ce qu'on fait, le médecin ou l'ouvrier, s'il bosse dur, s'il est toujours là, tout ça, il devrait avoir le maximum de salaire. Et celui qui est un peu paresseux, qui surveille l'heure toute la journée, celui-là, on lui donnerait moins. Vous savez, ça changerait tout dans notre monde. Oh, ça serait une autre manière de penser. Et puis là, alors là, peut-être qu'il y aurait certains problèmes qui seraient réglés. Mais je ne suis pas là pour faire du social, donc je ne vais pas m'occuper, je ne rentre pas dans la politique ni dans tout cela. Mais ce que je dis, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que chacun remplit et vit le rôle que le Seigneur lui a donné. Et s'il le vit pleinement, la récompense et l'honneur qu'il recevra dans le ciel, ce sera le même. Parce qu'il récompense la fidélité. Alors, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, mais je reconnais que je suis ce que j'ai, mon salut, c'est une grâce de Dieu. Je reconnais que ce que je peux faire pour Dieu, c'est une grâce, c'est une capacité qu'il me donne. Et c'est une grâce de Dieu. Ce rôle que je peux avoir dans l'Église, quel qu'il soit, et même si c'est quelque chose, un rôle que personne ne voit. Notre sœur, elle va voir les personnes âgées, elle va les visiter. À qui elle rend des comptes? Elle remplit pas des fiches, elle ne remplit pas de quelque chose pour dire j'ai fait date de visite. Elle le fait pour le Seigneur. Mais le Seigneur sait, il voit tout cela. Hein? Nous savons que tout cela, c'est une grâce de Dieu. Alors ma réponse est, Seigneur, aide-moi à te servir au maximum avec ce que tu me donnes comme possibilité. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas se comparer les uns aux autres. On ne peut pas dire, ouais, celui-là il est meilleur, l'autre... Il ne peut pas, parce que ce n'est pas le même rôle. Et c'est comme si vous aviez votre voiture tout en pièces, et puis on vous disait, quelle est la pièce la plus importante ? Même, il y a des petits boulons comme ça, si ce n'était pas là, il n'y aurait rien du tout. On ne peut rien faire. On tombe en panne sur la route pour pas grand-chose parfois. Il y a quelque chose qui s'est dévissé. C'est d'où l'importance de chaque. Et on doit comprendre que dans l'Église de Jésus-Christ, ce que Dieu a voulu, c'est ça. Et c'est comme ça que nous devons le vivre. Et c'est de comme ça. Et donc, nous sommes tous importants. Il y a ceux qui font le travail, puis les autres sont en remorque. Non, il n'y a pas de remorque sur l'Église de Jésus-Christ. Tout le monde est au volant. Et tout le monde travaille ensemble et tire dans le même sens. Dans le même sens, oui. Parce que j'ai déjà regardé les fourmis. Ils se mettent tous et puis chacun tire de son côté. Et si ça se déplace dans le sens du plus grand nombre. Mais dans une église de Jésus-Christ, ce n'est pas chacun tire de son côté. Tirons tous dans le sens de la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ? Il dit, premier, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ensuite, il dit, Dieu vous a fait grâce du salut, et il vous a fait grâce aussi de dons de capacité pour servir et faire une œuvre spirituelle dans son Église. Parce que tout ce qui est fait pour l'Église de Jésus-Christ et pour Dieu est une œuvre spirituelle. Même s'il s'agit de s'occuper de la poussière sur les meubles de l'Église. C'est une œuvre spirituelle parce que c'est fait pour Dieu. Et c'est très important et nous devons le remplir et le faire fidèlement. Et nous avons besoin et nous devons apprécier les uns les autres et nous devons remercier les uns les autres pour ce qui a été fait parce que lorsque tous sont fidèles, tout se passe bien et nous sommes reconnaissants. Je dois dire que c'est ma femme qui a fait ça, mais dans l'église où nous étions avant, eh bien, elle donnait des tâches aux enfants même. Et les enfants avaient des tâches. Et c'était, alors les enfants aussi, ils ont leur place. Eh bien, eux aussi, c'est leur plaisir. Quand il y avait une collation, c'est eux qui circulaient avec les boissons, ils distribuaient les verres. C'est leur rôle. Mais c'est important. Et quand tout le monde était là et on avait des visiteurs, il dit, c'est beau de voir même les enfants qui servent. Oui, mais parce que c'est normal, ça fonctionne bien. Lorsque nous avons cette pensée, ça montre autrement. Et ça donne une belle image à Dieu. Je sais pas, on n'était pas comme ça avant de connaître Dieu. C'est seulement depuis qu'on a rencontré Dieu, depuis qu'on lit la parole de Dieu, qu'on voit les choses autrement et on sert autrement. Il nous dit, si vous avez bénéficié de la grâce de Dieu, alors vivez selon cette grâce. Et chaque jour. Et Dieu saura ce qu'on a fait. Bien sûr, c'est certainement pas nécessaire de le dire, mais je vais le dire quand même. Tout ce qui est fait pour être vu des hommes, ça comptera pour rien du tout. Jésus l'a dit dans le sermon sur la montagne, si tu le fais pour être vu des gens, ça, moi, je le vois pas. Il devient aveugle, Dieu, tout d'un coup. Il dit, quand c'est fait pour moi, je vois. Quand c'est fait pour les autres, je vois plus. Et donc, c'est important pour nous de le souvenir de cela aussi, parce que la chair, elle aime bien être vue. Elle aime bien être applaudie. Et puis, personne ne m'a dit merci. Et alors, tu l'as fait pour qui? Dieu te dira merci. Et tu l'as fait pour lui, alors de quoi tu te plains? Il est important pour nous de revoir notre vie, de revoir nos réactions, de revoir notre comportement et notre vue sur les choses, parce qu'on veut les voir comme Dieu les voit. Et après là, ça donnera gloire à Dieu. Et quand les gens qui ne connaissent pas Dieu viennent là et disent ça c'est autre chose, ça c'est pas de la religion, ça c'est de la vie chrétienne. Et on veut qu'ils aient une bonne image de Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Et donc, nous voulons nous arrêter là et nous allons prendre quelques instants de réfléchir, que chacun évalue sa propre vie. Est-ce que déjà, je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu? Deuxièmement, puisqu'il me l'offre, est-ce que je suis prêt à le recevoir? Et puis, si je l'ai déjà reçu, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est quelque chose que j'ai mis dans ma poche et puis que je garde pour le dernier jour? Ou est-ce que c'est quelque chose que je vis chaque jour? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Est-ce que je sers Dieu avec ce qu'il m'a donné? Alors, prenons quelques instants de prière silencieuse, chacun entre lui et Dieu. Et puis ensuite, je clôturerai par la prière.